Je continuerai de parler de l'identité nationale parce que je crois que l'identité nationale pour un peuple, c'est quelque chose d'essentiel. Et parce que je crois que la France traverse une crise d'identité.
Alors que la plupart des autres pays d'Europe étaient des pays d'émigration, la France était déjà un pays d'immigration. Tout le développement industriel de la France va reposer sur l'immigration. Donc ça fait une des particularités de la France. Donc ça devrait entraîner une ouverture d'esprit, enfin je dirais une tolérance du phénomène plus grande que dans d'autres pays qui découvrent seulement les questions. Mais non.
Historien pionnier en matière d'immigration, Gérard Noiriel s'est vu médiatisé récemment quand il a démissionné de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Une démission en réaction au ministère de l'immigration et de l'identité nationale créé par Nicolas Sarkozy.
Je veux que l'immigration soit maîtrisée, que notre pays fixe chaque année le nombre des étrangers qu'il peut accueillir dans des conditions qui respectent la dignité de la personne. La France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider librement de qui y est le bienvenu et de qui n'y est pas souhaité. Je souhaite qu'on ne puisse pas s'installer durablement en France si on ne se donne pas la peine de parler et d'écrire le français. Je souhaite qu'on ne puisse pas vivre en France si on ne respecte pas notre culture et nos valeurs.
La France n'a pas à rougir par rapport aux autres pays d'Europe. Il y a eu une tradition du droit d'asile, il y a des gens qui se sont battus, pour ça il faut aussi le reconnaître, parce qu'autrement on désespère tous les gens qui essayent un peu de faire quelque chose. Mais la France est le pays du monde qui avait le plus grand nombre de réfugiés dans les années 30. Si on veut absolument défendre une identité nationale, bon, ben pourquoi pas, mais défendons ça. Alors que dans la politique actuelle, il faut défendre l'identité nationale, mais on s'aligne sur les plus mauvais pays d'Europe en ce qui concerne le droit d'asile.
Gérard Noiriel était de passage à Marseille, où il a fait salle comble deux soirs de suite lors de la présentation de ses deux nouveaux livres. Le premier, c'est « À quoi sert l'identité nationale ?», publié chez Agone. Le second s'intitule « Immigration, antisémitisme et racisme, discours public, humiliation privée », sorti chez Fayard. La Grenouille vous propose un décryptage en trois épisodes de la question de l'identité nationale. Née au XIXe siècle, l'identité nationale est rapidement présentée comme un problème et ne cesse alors d'alimenter le nationalisme. Popularisée par le Front National, l'identité nationale est remise au centre de l'actualité politique par Nicolas Sarkozy. Premier épisode, Gérard Noiriel revient sur sa démarche avant de remonter aux origines de la question de l'identité nationale.
Sur ces questions-là, c'est très difficile de faire de la recherche avec les outils de la recherche et l'esprit de la recherche scientifique, parce que, évidemment, la question du racisme, c'est une question politique. Le terme même, le mot même de racisme, en fait, il a été fabriqué par des hommes politiques dans le cadre de luttes politiques très importantes au moment de l'affaire Dreyfus. Et quand on fait de la recherche, eh bien, on n'est pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. On est là pour essayer d'expliquer les mécanismes. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, mais évidemment, il ne faut pas non plus être hypocrite quand on travaille sur des questions comme celles-ci, qui sont très sensibles. Eh bien, on a aussi une passion, on a aussi une vision des choses qui peut-être met un peu en crise la notion d'objectivité telle que les historiens les plus académiques la conçoivent. Ce livre, donc « Immigration, antisémitisme et racisme en France, discours public, humiliation privée », au départ, il a été motivé, comme la plupart d'ailleurs de mes recherches, par des questions venues de l'actualité. Pour ceux qui sont un peu philosophes dans la salle, je dirais que chez moi, c'est l'héritage de... Il y a deux intellectuels qui m'ont beaucoup marqué dans ma formation, c'est le sociologue Pierre Bourdieu et le philosophe Michel Foucault. Et donc, je me suis retrouvé dans la démarche que prenait Michel Foucault, c'est-à-dire en disant que, eh bien, finalement, les problèmes de recherche qu'on se pose sont nourries par l'actualité politique. Mais notre travail, ce n'est pas de répéter l'actualité, ce n'est pas d'alimenter aussi les points de vue des militants, c'est de problématiser, c'est-à-dire de prendre une certaine distance pour essayer de montrer les enjeux d'une question. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, en partant d'un certain nombre d'éléments qui sont d'actualité. Donc l'un d'entre eux, c'est l'enquête annuelle publiée par la Commission consultative des droits de l'homme, qui montre que, eh bien, il y a aujourd'hui encore en France plus de 50% de Français qui trouvent qu'il y a trop d'étrangers. Hein, alors même que les statistiques montrent que c'est l'inverse, il y a une diminution du nombre des étrangers. Bon, donc on voit que reste encore dans l'opinion, dans les mentalités, comme on dit, une forte vision, qu'on pourrait dire xénophobe, qui présente donc l'immigration comme quelque chose de négatif, comme une menace. Bon. L'autre événement qui a été au départ de ce livre, ça a été l'événement que tout le monde a encore en mémoire, ce qu'on a appelé les émeutes de novembre 2005. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que dans les formes de violence qui ont éclaté dans un certain nombre de communes populaires, notamment en région parisienne, l'une des raisons que les jeunes qui ont été impliqués dans ces événements ont avancé, c'est qu'ils n'avaient pas supporté que les ministres de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, les traitent de racailles. Et donc il y a eu ce mouvement de critique par rapport à ce mot « racaille ». Bon. Et pourquoi ça m'avait vraiment intéressé en tant qu'historien, hein, je ne vous dis pas en tant que citoyen, mais en tant qu'historien, eh bien c'est parce que, en fait, ces jeunes-là, bon, sans doute ne le savaient pas, mais ils réagissaient comme l'avaient fait les ouvriers il y a 150 ans, sous la monarchie de Juillet, lorsque un certain Victor Hugo a été élu à l'Académie française, parce que Victor Hugo est à l'originalité, parce qu'en général, c'est plutôt le contraire, d'avoir été d'abord de droite au début et avoir fini à gauche. Hein. Mais au début, c'était un conservateur, hein, donc il siégeait même sur le banc des aristocrates. Bon. Et il a été élu à l'Académie française, et dans son discours, il avait parlé de la populace. C'est à peu près équivalent de racaille aujourd'hui. Hein. Populace. Et il y a un ouvrier qui s'appelait Jacques Vinçard, qui est menuisier. Eh bien, il a écrit à Victor Hugo en lui disant qu'il trouvait scandaleux qu'on puisse parler des ouvriers comme ça. Ces ouvriers ont d'ailleurs créé des journaux, ça a été les premiers journaux ouvriers, La Ruche Populaire, L'Atelier. Et voilà, ils ont adressé leurs protestations. Vous voyez, c'est loin dans le temps, mais c'est assez proche par rapport à des choses qu'on peut connaître. La façon dont les journalistes parlaient des... on ne disait pas des quartiers à l'époque, mais du peuple de Paris, les Halles, les classes laborieuses, classes dangereuses, les ouvriers alcooliques, violents, etc., etc. Et ce qui était intéressant aussi, et c'est là qu'on voit qu'il y a une différence entre le ministre de l'Intérieur de l'époque et Victor Hugo, c'est que Victor Hugo, lui, ça l'a préoccupé. Il n'avait pas réalisé, vous voyez, il n'avait pas réalisé qu'en utilisant ce mot, eh bien, il humiliait les gens des gens, parce qu'ils vivaient dans un autre monde, dans un univers de l'élite. Donc, le simple fait qu'il y ait une réaction, que ces ouvriers aient pu répondre, eh bien, ça a entraîné une démarche qui a eu des effets sur l'œuvre même de Victor Hugo. Et tout ça est expliqué dans un livre qui a été écrit par un historien qui est mort aujourd'hui, mais qui s'appelle Louis Chevalier. C'est un livre qui s'appelle « Classe laborieuse, classe dangereuse », qui est très intéressant. Et il montre que Victor Hugo, eh bien, n'a plus jamais utilisé ce mot, « populace », et qu'il a ensuite évolué même dans sa définition des « misérables », hein, cette grande œuvre « Les misérables ». Au début, le mot « misérable », c'était utilisé, je dirais, dans un sens sécuritaire. « Misérable », ça voulait dire « criminel ». Et à la fin... c'est plutôt le terme, vous voyez, de pauvre, de victime qui s'impose. Donc on voit, pour moi, c'était très intéressant de voir à 150 ans d'intervalle, finalement, la reproduction d'un mécanisme de même type. Et donc tout le livre que j'ai fait, ça a été mon fil conducteur, si vous voulez. En gros, maintenant, si je veux transformer ça dans un vocabulaire plus sociologique, d'essayer de faire le lien entre la production des discours publics et la réception des discours publics. Donc, mettre ensemble une analyse qui expliquerait comment vous avez les élites, moi ce que j'appelle les professionnels de la parole publique, qui fabriquent des discours, qui fabriquent des représentations, et comment ces images, ces représentations, ces discours sont ressentis par ceux qui sont visés par ces discours-là et qui, la plupart du temps, ne peuvent pas répondre, sauf quand, ben voilà, ils font des actions qui vont attirer l'attention sur eux, etc., etc. Voilà la démarche que j'ai retenue. Ça me permettait donc de parler un vocabulaire sociologique. Je parlais de stigmatisation, d'humiliation, plutôt que de parler de racisme, parce que c'est un mot aujourd'hui qui est complètement piégé, qui est saturé. Donc c'est un mot, je veux dire, sur le plan politique, évidemment, qui est nécessaire, mais sur le plan de la recherche. C'est l'une des grandes difficultés, d'ailleurs, de la recherche en sciences sociales, c'est que nous sommes obligés d'utiliser le vocabulaire commun, mais en même temps, ce vocabulaire, il est toujours, vous voyez, piégé par les usages qu'en font les acteurs de la scène politique. Donc, voilà, ce livre est centralement donc organisé autour d'une réflexion sur l'histoire du racisme, mais avec un vocabulaire que j'ai emprunté à la sociologie.
Écoutez comment Gérard Noiriel débute son autre livre intitulé « À quoi sert l'identité nationale ?». Alors je cite « Depuis une dizaine d'années, les problèmes d'immigration et d'identité nationale sont au cœur de l'actualité politique. » En fait, cette phrase ne date pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 15 ans. C'est comme ça qu'en 92, Gérard Noiriel commençait un ouvrage quelque peu prémonitoire qui avait pour titre « Population, immigration et identité nationale ». Cet historien était donc plutôt bien placé pour nous rappeler que la question de l'identité nationale, chère à notre président Nicolas Sarkozy, est née au XIXe siècle et a souvent servi à stigmatiser les immigrés.
Cet ouvrage, donc, qui s'intitule « À quoi sert l'identité nationale ?» avec des guillemets à « identité nationale », c'est le résultat d'une démarche collective. Moi, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. J'ai toujours été impliqué dans des projets collectifs depuis le début de ma carrière. Je crois que c'est un des éléments essentiels pour résister, comme on dit, d'agir collectivement. Donc là, le collectif, c'est le Comité de Vigilance face aux Usages Publics de l'Histoire, le CVUH, qui est né donc en 2005, au moment du vote de la loi du 23 février 2005, voulant obliger les enseignants et les chercheurs en histoire à présenter les aspects positifs de la colonisation. Donc, il nous a semblé là qu'il y avait vraiment une ligne rouge qui était franchie. Cette loi marquait l'irruption directe du pouvoir politique dans le monde de l'enseignement et de la recherche. Là, c'était le plus visible, mais il y avait d'autres éléments qui se sont accentué par la suite. Un autre élément, à la même période, c'était le procès qu'ont voulu intenter à l'un de nos collègues, Olivier Petré-Grenouillot, qui avait publié un livre, vous connaissez peut-être cette affaire aussi, sur la traite négrière, qui ne plaisait pas à certaines associations, sans, d'accord ou pas d'accord avec le contenu du livre. Là, il y avait des débats là-dessus, mais il nous semblait vraiment dangereux qu'aujourd'hui on aille convoquer des juges pour régler des questions d'ordre historique. Donc on a créé ce comité et l'un des enjeux, là aussi c'est une chose que j'ai depuis longtemps, c'est-à-dire ça s'explique aussi par la trajectoire des gens de notre génération qui ont commencé, à découvrir la politique quand c'était étudiant avec le marxisme, etc. Et la réflexion qui a été très très forte et douloureuse, je dirais, pour nous, ça a été par rapport au stalinisme. C'est-à-dire la réflexion sur le stalinisme nous a amené à défendre plus que tout l'autonomie de la réflexion et de la critique intellectuelle à l'égard de tous les pouvoirs. Même des pouvoirs, des formes d'action qui sont très proches par ailleurs de ce qu'on peut faire nous, parce qu'on est aussi des citoyens, mais ne pas confondre les modes d'intervention. Ça, c'est une chose qui pour moi est très 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 importante, qui d'ailleurs est pas forcément toujours bien comprise, hein, parce que les gens aiment bien les historiens quand ils disent pareil qu'eux, mais dès qu'on est dans un peu une analyse critique sur le comportement même des militants ou des associations, tout de suite là, ça devient plus difficile. Mais je pense que c'est ce qu'on peut apporter de mieux, c'est pas de parler à la place des gens, mais c'est de leur donner des outils pour leur propre combat. Et ça, c'est, je dirais, la philosophie qui sous-tend l'action du CVEH. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'il y a pas mal d'incompréhension sur la notion de vigilance. Le mot vigilance aussitôt fait bondir certains, etc. Bon, évidemment, pour nous, c'est un clin d'œil aux années 30, hein, le comité de vigilance intellectuelle antifasciste. Mais bien sûr, on ne considère pas que nous sommes dans une situation comparable aux années 30. Et on ne se prétend pas comme ça, comme les successeurs. Enfin, c'est beaucoup plus modeste. Mais ce terme de vigilance, il ne signifie pas non plus, ça j'y insiste, que nous serions, nous, dans la place publique, en train de dire « voilà la vérité historique », et puis d'évaluer tous les discours qui peuvent se tenir sur le passé à l'aune d'une vérité qu'on serait seul à détenir. Ça, c'est de l'expertise. Nous, on n'est pas dans la logique de l'expertise. Alors ça ouvre sur un autre débat que certains connaissent peut-être. Ça a été le débat sur les lois mémorielles, hein, avec les deux pétitions d'historiens. Bon, je mets ça aussi de côté. Mais disons que notre démarche, c'est plutôt d'invalider les discours politiques qui utilisent l'histoire pour se justifier. En disant, en gros, bien, l'histoire, en tant que savoir savant, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, en tout cas, directement dans les polémiques politiques. On a trop vu, par le passé, des gens qui, pour justifier leurs intérêts, s'appuyait sur, soi-disant, les vérités de l'histoire. Donc nous, notre travail, il est critique en disant, ben, nous qui travaillons dans ce domaine-là, on apporte des éléments pour dissoudre un petit peu les formes de domination qui utilisent l'histoire. Alors évidemment, on a eu depuis 2005 de nombreuses occasions de le concrétiser, puisque nous avons aujourd'hui un président de la République qui est largement arrivé au pouvoir en utilisant, je dirais, l'histoire comme peu, je n'ai pas fait une enquête là-dessus, mais peu de ses prédécesseurs l'avaient fait. J'ai analysé donc la campagne électorale de 2007. Donc, je me suis concentré sur un enjeu qui, je crois que beaucoup de gens le reconnaissent, a été central dans la campagne électorale. Ça a été l'irruption à nouveau de ce débat autour de l'identité nationale. L'intention donc de ce livre, c'était de mobiliser justement le savoir qu'on pouvait avoir accumulé dans la recherche historique ou en sciences sociales sur cette question-là, pour le confronter à ce que les politiques, et surtout évidemment Sarkozy, puisque c'est lui qui a vraiment lancé et imposé ce débat à ce moment-là, eh bien de confronter les discours qui étaient tenus avec ce qu'on peut savoir par ailleurs. Ce que je dis là, vous pouvez le vérifier. Si vous tapez sur Google UMP, vous aurez le site de l'UMP. Sur le site de l'UMP, vous verrez, il y a une case archive. Et vous avez tous les discours de la campagne qui ont été conservés. Donc moi, j'ai travaillé là-dessus. Ça, c'est la magie d'Internet. J'avais les matériaux sous la main qui m'ont permis de faire une analyse précise de l'argumentation et la rhétorique surtout employée pour dire l'identité nationale, je vais vous dire ce que c'est. Et c'est un discours de vérité, ça c'est très important. Le mot vérité revenait constamment à ce moment-là.
Gérard Noiriel, remontons aux origines de la question de l'identité nationale que Nicolas Sarkozy a remise au centre de l'actualité.
Je crois beaucoup au pouvoir des mots et de plus en plus dans le débat politique, les mots slogans, etc. Donc la rhétorique des termes est devenue tout à fait fondamentale. Donc je me suis interrogé sur cette expression identité nationale, d'où vient-elle, quand est-ce qu'elle a commencé à être utilisée en France, etc. Et je me suis rendu compte que c'était en fait récent comme expression. Et on la trouve seulement à partir des années 70, 1970. Et cette expression « identité nationale », en fait, c'est une francisation d'une expression américaine, « national identity », qui a été forgée par les sciences sociales, et plus précisément, même s'il y a toujours grand nombre d'auteurs, mais il y en a un tout particulièrement qui a joué un rôle important, c'est Erik Erikson, qui est un psychologue qui a travaillé beaucoup sur l'adolescence, sur la crise de l'adolescence, etc., et qui a diffusé dans le champ des sciences sociales américaines cette expression identité, national identity, mais lui dans une problématique qui était celle de, lui-même étant issu de l'immigration, qui était une défense qui était typique de la gauche socialiste, si vous voulez, de cette époque-là, qui était une défense de l'intégration, de l'assimilation même, on disait à l'époque, Donc, pour lui, il forge ce concept en disant comment faire pour que les immigrants, les enfants d'immigrants, s'américanisent. Et en fait, aux États-Unis, dans les années 60, avec l'émergence de la politisation des campus, la guerre du Vietnam, etc., on a eu un retournement, un premier retournement, enfin pas vraiment retournement, mais un usage beaucoup plus critique de cette définition pour dénoncer les identités nationales opprimées. C'est-à-dire, bon, c'est avec la naissance du multiculturalisme, notamment, mais aussi dans le cas de la France, la politisation du régionalisme. Et donc, après 68, l'expression identité nationale a été diffusée en France d'abord par des militants régionalistes, par exemple, des enfants dans la nation corse, par exemple, ou l'Occitanie. Et donc, là, le discours, donc, identité nationale, vous voyez, c'était un discours très critique à l'égard d'un État jacobin, centralisateur, homogénéisateur, qui aurait brimé toute une série d'identités nationales qui n'auraient jamais pu s'exprimer. Ça, je crois que c'est important de partir de là, parce que l'une des stratégies constantes du nationalisme, c'est de retourner des thèses progressistes pour les transformer en thèses conservatrices. Et c'est justement ce qui s'est... Dès le début de l'histoire du discours sur la nation, on trouve cela. Si on met de côté l'expression identité nationale pour s'intéresser un peu au contenu, qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui emploient cette expression, eh bien on s'aperçoit que sur le fond, on parlait déjà de la même chose avant avec d'autres mots. Et on ne disait pas identité nationale, mais on disait caractère national, âme nationale, voire même nationalité. Le mot nationalité en français au XIXe siècle, ça a été au départ un terme, ce n'est pas un terme juridique. Le mot nationalité, j'ai fait une histoire de ce mot, donc j'ai étudié ça de près. En fait, la première fois où le mot nationalité s'est imposé comme titre d'un livre en France, c'est la traduction du livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Jahn, et un livre qui s'intitule Volkstum. Volkstum, c'est un mot que Jahn avait forgé lui-même pour désigner l'identité nationale, si on veut, l'identité allemande, la germanité. Et c'est pour diffuser dans le champ intellectuel français cette notion que le traducteur a forgé, ce qu'il le dit d'ailleurs dans l'introduction, un néologisme qui était le mot nationalité. Le mot nationalité n'existait pas sous la Révolution française. Donc, on voit là que, en fait, le problème qui est sous-jacent, il est ancien, il est lié à l'émergence du vocabulaire national. Mais dans l'histoire du vocabulaire national, il faut distinguer deux moments et aussi peut-être deux contextes. Le premier moment, c'est la Révolution française. Hein. C'est les révolutionnaires français qui imposent dans le vocabulaire politique donc, le terme de nation, la souveraineté nationale, le tiers-État comme représentant donc, du peuple, comme étant le peuple, incarnant le peuple. Et dans le débat, si on lit par exemple la brochure de Sieyès « Qu'est-ce que le tiers-État ?», on voit très bien comment est positionné ce débat sur la nation dans le cas français. Sieyès dit « c'est le peuple qui constitue la nation et la noblesse ne représente pas la nation ». Et il dit, à un moment, il dit aux nobles « eh bien, vous n'avez qu'à retourner dans vos forêts de Franconie ». Alors l'expression est très intéressante puisqu'elle fait référence à un débat qui avait été important dans le cas français depuis le début du XVIIIe siècle, où vous aviez les historiens de la noblesse comme Boulainvilliers qui disaient « c'est normal que nous ayons des privilèges parce que nous sommes issus de la race des vainqueurs ». La race des vainqueurs, c'était les Francs. Les Francs, dans cette vision de l'histoire, étaient considérés donc comme les vainqueurs. Donc c'est normal que les descendants de la race des vainqueurs... Donc, vous voyez, on pourrait appeler ça du racisme avant la lettre. C'est vraiment une définition fortement ancrée dans l'origine d'un groupe ethnique, hein, je dirais d'un groupe, qui est justifié donc la nation. Et donc la Révolution française, des révolutionnaires qui représentent, disons, la bourgeoisie, rejettent ce discours en disant, en gros, c'est la revanche des Gaulois. Donc ceux qui avaient les dominés, bon, le tiers-État, ce sont les Gaulois. Donc les Gaulois ont fait la révolution, donc les Francs, on les renvoie dans leur Franconie. Alors, on a là la racine d'un problème qui va se développer après, qui aura une certaine importance dans la construction de l'identité nationale, c'est nos ancêtres les Gaulois. Quoi. Ça ne se fera que dans les manuels d'histoire de la Troisième République. Mais déjà, en germe, dans la Révolution, on a ce premier point. Mais ce qui est important, c'est que dans le cas français, c'est... le débat est social. Hein. C'est vraiment la Révolution française, c'est une révolution, c'est la lutte des classes, c'est vraiment social. Et les révolutionnaires ne se posent pas le problème de la délimitation à partir de critères culturels, linguistiques ou autres, de ce que c'est que la France, que ce sont les Français, etc. Ils ne le font pas, ce n'est pas parce qu'ils ont déjà un siècle d'avance et qu'ils sont dans l'universalisme, c'est une élite qui est déjà, elle, complètement francisée. C'est le travail de francisation qui a été accompli par l'État monarchique depuis Henri IV, Richelieu, etc., donc qui a tué toute une série de spécificités. Et toute cette élite révolutionnaire qui a été formée dans les collèges des jésuites, eh bien, ils sont déjà complètement francisés. Donc il n'est pas possible de politiser les différences culturelles ou linguistiques parce qu'il n'y a pas de base, je dirais, pour le faire, puisque toute l'élite est intégrée dans l'État. Ce qui va compléter cette première ébauche de la définition d'identité nationale, c'est ce qui va se passer en Allemagne quelques décennies plus tard, notamment chez les philosophes. Bon, j'ai parlé de Jahn tout à l'heure, mais on pourrait déjà, évidemment, un peu avant, Herder, Fichte, Hegel, etc., qui avaient été enthousiasmés par la Révolution française, mais évidemment qui sont désenchantés quand ils voient qu'au nom des valeurs universelles de la République française, on vient les envahir. C'est le problème de la domination française, de l'impérialisme napoléonien, qui a déjà commencé un peu avant, mais que des exactions aussi des armées napoléoniennes. Donc là, on a une tentative de la part de cette génération pour penser la question de la nation en intégrant sa dimension sociale, hein, puisque ce sont des progressistes, hein, ces révolutionnaires, ils sont en lutte contre le pouvoir royal, contre l'aristocratie. Donc ils ont repris ça de la Révolution française, mais en même temps, eh bien, ils se battent pour la liberté de l'Allemagne. Hein. Donc c'est eux, ces philosophes, qui vont essayer d'élaborer une définition de la nation qui tient compte d'un certain nombre de critères culturels. Quand on lit le livre de Jahn, on voit que le critère principal qu'il avance, c'est Volksgeist, l'esprit du peuple, mais qu'il définit, je dis ça parce que ça a été tellement caricaturé après toutes ces questions-là, il définit comme l'intelligence, la personnalité d'un peuple. Et donc on a là une définition qui insiste plus sur les caractéristiques culturelles, on pourrait dire, mais qui se fait dans un contexte qui est progressiste, c'est-à-dire que des gens comme les frères Grimm, par exemple, vont fonder une sorte de réseau européen qui vise à sauver, à récupérer, à fixer par écrit les coutumes populaires, les langues, etc., de façon à ce qu'il y ait un maximum de nations qui émergent. Donc c'est ce qu'on appelle le principe des nationalités, qui va expliquer les révolutions de 1848, en fait, qui est encouragé par toute l'élite républicaine, c'est-à-dire la gauche de l'époque. Donc on voit que les fondements de la définition de la nation sont posés dès le début du XIXe siècle, mais ils sont posés par la gauche de l'époque, on pourrait dire, qui s'identifie à la République. Donc il y a un rapport étroit entre République et nation, et encore aujourd'hui, c'est un problème, évidemment, mais qu'on voit poindre dès cette époque-là. Et vous savez, la contradiction de la Révolution française, c'est-à-dire en 1789, on accueille à bras ouverts Paine ou Klotz, on leur donne la nationalité française, etc. Puis l'année d'après, avec le comité de salut public, la loi sur les suspects, etc., on les arrête, certains sont exécutés, comme Klotz, parce qu'on dit que ce sont des espions, des traîtres à la nation française. Donc cette contradiction, elle parcourt toute l'histoire de la France contemporaine, et on la retrouve encore aujourd'hui, c'est les deux versants de la République. Mais dans cette première moitié du XIXe siècle, j'insiste là-dessus, la noblesse n'a jamais été, à cette époque, hein, la noblesse, jusqu'à la fin du XIXe siècle, n'était pas nationale. Ça voulait rien dire. Le national, c'était le vocabulaire républicain que détestaient les nobles. Le tournant majeur par rapport à cette logique-là, c'est la guerre de 1870, la guerre entre la France et la Prusse, donc la défaite française et l'émergence de la Troisième République, parce que là, on a, en 20 ans, un basculement complet du discours sur la nation. Et à partir de ce moment-là, le discours sur la nation passe à droite.
C'était l'historien Gérard Noiriel. Vous saurez tout de la droitisation du discours sur la nation au prochain épisode. Rendez-vous demain à 14h sur La Grenouille.